Bonjour à tous, nous sommes les élèves de 3e prépa métier et nous préparons cette année, en cours de français, un travail d'écriture d'une nouvelle policière sur les thèmes des Jeux Olympiques 2024. D'ailleurs, soyez attentifs car certaines de nos nouvelles vont être diffusées aujourd'hui sur Cellular Radio. Aujourd'hui, nous avons de la chance d'accueillir un écrivain de romans noirs de la région, Didier Louvel, qui va nous parler de son travail et de son parcours. Bonjour, monsieur Louvel.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici pour votre émission.
Bienvenue dans notre studio. Nous allons vous poser quelques questions. Quel est votre parcours professionnel ?
Alors là, pour faire simple, je dirais que c'est la ligne droite, quoi. Alors, j'ai passé un concours en troisième qui s'appelait le concours d'école normale pour devenir enseignant. J'ai fait une formation d'enseignant après le bac et puis après, j'étais instituteur toute ma vie. Voilà, c'est vraiment la ligne droite. D'instituteur, après, je suis passé directeur d'école. Mais en gros, j'ai travaillé 35 ans dans l'éducation nationale. Dans le Vimeux, parce que c'est ma région de prédilection. Globalement, j'ai fait un petit saut à l'étranger pour le service militaire à l'époque. Et puis voilà.
Comment êtes-vous devenu écrivain ?
Alors, je suis devenu écrivain parce que j'aime d'abord lire. C'est la priorité. Et puis, j'avais envie de parler un peu de ma région. Et donc, l'envie de parler de la région et le fait d'aimer lire m'a donné l'envie d'écrire sur la région. Et le roman policier est un moyen de parler de la région. Voilà pourquoi je suis devenu écrivain. Une volonté de communiquer sur ce que j'aime. Voilà.
Comment trouvez-vous l'inspiration ?
Alors, je dirais l'inspiration, justement, elle me vient de ce que j'ai à dire sur toute cette région que je connais bien. Et puis, pour ce qui est l'inspiration des romans noirs, ça vient surtout de tout ce qu'on entend à la radio, des autres romans que l'on a lus. En gros, l'inspiration, elle est partout. C'est-à-dire que chaque jour, il y a un flot d'informations qui nous donne des curiosités, des choses qu'on ne comprend pas très bien qui se sont passées, et puis ça donne des idées. Les idées, elles viennent de là. Mais surtout, mon inspiration principale, c'était parler de mon coin, de mon secteur, de mon pays, quoi.
Est-ce difficile de vivre de l'écriture ?
Si je devais vivre avec ce que je gagne là, je serais dans la misère. Je ne vis pas de l'écriture. Je touche quelques... Je vais vous dire que par livre vendu, je gagne 50 centimes environ d'euros. Et donc, ce serait impossible de vivre de l'écriture. D'autre part, je voudrais revenir sur l'idée d'écrivain. Je ne suis pas écrivain, je suis auteur. Ça veut dire qu'un écrivain, j'en profite là pour revenir là-dessus, un écrivain vit de son métier. Un auteur, c'est quelqu'un qui a écrit un livre. Moi, je suis un auteur, j'ai écrit un livre, mais je ne suis pas vraiment un écrivain.
Comment trouvez-vous le titre d'un livre ?
Alors là, ça vient de la déformation des livres que je lis le plus souvent. Comme je lis beaucoup de romans policiers, j'ai remarqué que beaucoup de romans policiers ont des jeux de mots comme titre. Alors, je recherche toujours un jeu de mots qui va intriguer le lecteur, qui va l'attirer. Et donc là, par exemple, « La marée était en noir », c'est un titre qui fait référence à un film des années 70 qui est connu par de nombreuses personnes et qui me semblait être attractif. Et d'ailleurs, les gens, quand on est dans un salon de livres, quand ils passent et qu'ils voient le titre, ils accrochent, même s'ils n'accrochent pas pour le livre, mais ils accrochent pour le titre. Ils regardent, ils sourient, ils font référence. Ou parfois, ils se trompent, ils disent « Tiens, encore un livre sur les marées noires, c'est pas intéressant. » Mais au moins, il y a quelque chose qui les interpelle.
Où écrivez-vous vos livres et dans quelle ambiance ?
Alors, j'écris les livres à la maison. Dans quelle ambiance ? Dans une ambiance très, 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 très calme. Je suis dans un petit bureau dans lequel je m'isole et où je travaille en solitaire. Pas de musique. J'avais essayé d'écrire avec un peu de musique en fond sonore. C'est impossible. On ne peut pas faire les deux. Et donc, vraiment besoin de me concentrer sur ce que j'écris de manière à pouvoir être efficace. Autrement, on part dans tous les sens et c'est impossible. Voilà, ambiance très, très, très calme, isolée.
Écrivez-vous sur un ordinateur ou sur du papier ?
Les deux, mon général. Alors, sur l'ordinateur, pour taper le texte, j'écris sur l'ordinateur. C'est ce qui est le plus pratique parce que on peut faire un premier jet. Si ça nous plaît pas, on surligne en rouge, on met en rouge. Ça permet de corriger. On a une idée, on lance l'idée, on la lance à l'ordinateur, on la met d'une autre couleur. On sait que ça, c'est provisoire. Dans le dernier livre que j'écrivais, là, il y avait toute une partie que je devais écrire et je n'étais pas documenté sur comment on brûlait les galets, qu'est-ce qu'on faisait avec les galets brûlés. J'ai mis de côté, j'ai mis un charabia de texte qui devait parler de ce qu'on faisait des galets. Je me suis renseigné, je suis allé voir la directrice de l'usine, elle m'a expliqué ce qu'on faisait et après, j'ai pu écrire. Quand je dis j'écris aussi sur papier, parce qu'en parallèle, j'ai un papier... deux papiers sur lesquels je mets une frise chronologique de tous les événements qui se passent dans l'histoire pour ne pas me perdre. Parce que si je dis que quelque chose s'est passé 3 jours avant et qu'au final, c'était pas 3 jours avant, mais que c'était 2 jours avant et que je sais qu'un tel est venu rendre visite à un tel à tel moment, si je ne l'ai pas sous les yeux au moment voulu où j'écris, je suis perdu. Et puis, j'ai aussi un tableau quotidien de ce qui s'est passé dans la journée dans lequel je récapitule tous les événements qui ont eu lieu dans mon histoire. Comme une histoire n'est pas forcément linéaire et qu'elle peut être en plusieurs parties dissociée, eh bien, ça me permet d'avoir toujours le lien, de savoir où j'en suis. Donc, j'ai l'ordinateur pour taper, pour faire avancer mes idées, avancer le texte. Et puis, d'un autre côté, j'ai ces deux papiers, un tableau, je dirais, un tableau hebdomadaire de ce qui se passe au quotidien, pardon, et puis une frise chronologique sur la durée. Et puis l'intérêt de taper à l'ordinateur, c'est que ça permet aussi de revenir un peu comme la marée revient avec ses vagues, c'est-à-dire que j'ai écrit quelque chose, je reviens, je le relis le lendemain, et je dis « Ah, ça me plaît pas de sous cette forme-là, je peux le retoucher, je peux aussi rajouter ». On peut rajouter aisément sur du papier. Rajouter, c'est compliqué, il faudrait reprendre. Les écrivains, jadis, il y en avait qui faisaient 5-6 versions de leurs livres. Ils reprenaient, le réécrivaient entièrement. Maintenant, avec l'ordinateur, on a un gain de temps inouï parce que les 5-6 versions, on les fait les unes sur les autres, on les compile. Et on peut garder aussi les anciennes versions. Très facilement, on peut aller les repiocher. Tiens, ce paragraphe-là, là, il me plaisait plus. Là, je le copiais, collais, je le remets là.
À quelle fréquence écrivez-vous ?
Alors, jamais l'été. C'est déjà un argument, parce que l'été, j'ai mon jardin. Et donc, je n'ai pas le temps. J'écris surtout automne, hiver. Et puis, c'est tous les soirs. C'est tous les soirs quand je ne suis pas pris. C'est-à-dire qu'on a notre vie, on fait d'autres choses le soir. Parfois, on sort, on va manger, on va au cinéma, enfin des choses comme ça. Mais quand je suis libre, j'écris au moins 2 heures tous les soirs. Voilà, que ce soit dimanche, samedi, c'est pas gênant, 2 heures le soir. Mais ça ne veut pas dire que j'écris pendant 2 heures, parce que pendant les 2 heures, il y a du temps de recherche, il y a du temps de recouper les informations que j'ai déjà engrangées, et puis il y a le temps de relecture, de réécriture. En fait, une histoire, j'ai calculé, en gros, je l'avance d'une page à une page et demie par jour. Voilà, pas plus, parce que je reviens toujours un peu en amont pour reprendre ce que j'ai écrit. Puis parfois, quand ça ne plaît pas, on recommence toute la page et puis de fait, on a déjà perdu une semaine, mais elle n'est pas perdue parce que de toute façon, on n'était pas content.
Pour le livre « La marée était en or », est-ce que vous êtes inspiré de faits réels ?
Alors, il y a des faits réels, oui, et des faits totalement imaginaires. Donc, les faits réels là-dedans, je reporte des événements qui se sont produits pendant la guerre 39-45, sur le nord de la France, à l'époque où toute la côte Picarde était occupée par l'armée allemande, et puis le mur de l'Atlantique, tous ces blocos qui étaient là. D'ailleurs, on en a encore des témoignages, là, à portée de la main, à Autréport, là, derrière, il y en a encore des blocos. Et donc, des événements qui se sont produits sur des gens qui ont été arrêtés, qui ont été incarcérés, qui ont été envoyés à Auschwitz, qui sont morts à Auschwitz, tout ça, c'est réel. Sur une personne qui a aidé des aviateurs, des gens à fuir en Angleterre en prenant la mer, tout ça aussi, c'est réel. Sur les faits historiques, tout est à peu près réel. Les noms sont changés, et puis... les lieux sont réels aussi, mais ils sont, je dirais, un peu d'une autre époque. Ce n'est pas forcément l'époque d'aujourd'hui, mais ce sont bien des lieux réels.
Comment vous documentez-vous pour écrire votre livre ?
Alors, celui-là, Une bonne question. Il était en moi, donc il ne me posait pas la question de documentation. Je voulais vraiment parler de cette zone du Hourdel, de tout le sud de la baie de Somme. J'avais une grosse connaissance, puisque je suis originaire de Cailleux, je connais bien le secteur. J'ai beaucoup étudié historiquement mon village avant de m'y attaquer, mais pas spécialement pour le livre. Je l'ai étudié parce que j'aimais bien m'intéresser à mon village. Et puis autrement, ben, il n'y a pas de documentation. Quand on écrit un roman policier, on imagine une histoire. La documentation, elle viendra après. Si j'ai besoin d'une documentation technique sur un sujet de l'histoire, j'irai la chercher. Mais je le fais au fur et à mesure en fonction des besoins qui vont se créer au moment de l'écriture. Autrement, je sais globalement de quoi je veux parler. Le premier là, livre que j'ai fait, il a parlé du sud de la baie de Somme. J'en ai envoyé un deuxième là à mon éditeur qui parle du sud de la baie de Somme, qui parle du Hâble d'Olt, qui parle de ses marais, qui parle des galets surtout. Et donc, voilà, je me suis redocumenté après sur les galets pour savoir, pour pas dire de conneries, mais est-ce qu'on dit ça à la radio ? Oui.
Pourquoi écrire spécifiquement des romans policiers ?
Parce que j'adore en lire et parce que c'est un bon moyen pour parler de tas de choses en intéressant les gens. Si j'avais dit je vais écrire un livre qui parle de la baie de Somme, des chasseurs, des pêcheurs, de la vie, je ne suis pas sûr que ça intéresserait les gens comme ça. En montant une histoire, une intrigue, les gens s'intéressent à l'intrigue et découvrent des sujets qu'ils ne connaissaient pas, des informations qu'ils ne connaissaient pas sur un secteur. Donc c'est le prétexte, le roman policier est un prétexte pour parler aussi d'autre chose et le plaisir aussi d'écrire une histoire policière.
Quel écrivain admirez-vous et pourquoi ?
J'admire beaucoup d'écrivains. Principalement ceux que je lis, donc c'est-à-dire des auteurs de polar. Patrick Reynal, par exemple, qui est venu l'an dernier ici, est un maître. Je l'adore pour tous les idées qu'il a, les comparaisons qu'il arrive à faire, la manière d'écrire qu'il a, c'est un régal à lire. Des auteurs comme Jean-Bernard Pouy ont une imagination hyper féconde. Ils partent dans des idées complètement farfelues et puis ils nous emmènent dans ce monde-là et on a toujours un grand, grand, grand plaisir à les lire. Puis j'aime aussi beaucoup les polars du nord de l'Europe, les romans policiers du nord de l'Europe, les Indridason, islandais, Henning Mankell, suédois, enfin voilà, toute cette école du polar qui vient du nord de l'Europe.
Échangez-vous avec d'autres écrivains ?
Alors, avec d'autres auteurs Alors, on échange quand on se rencontre dans ce qu'on appelle des salons littéraires, où les gens sont rassemblés pour présenter leurs livres. Et là, on peut communiquer avec eux. On parle de ce qu'on écrit, on parle des retours que l'on a, voilà. Mais c'est pas fréquent. Une ou deux personnes avec qui je communique, c'est tout, quoi.
Quel est le thème de votre prochain livre ?
Ben là, je vous en ai un peu parlé. Le thème de mon prochain livre, c'est plutôt les galets. Alors, les galets sous toutes ses formes, l'origine des galets, qu'est-ce qu'on fait des galets, les usines de galets, l'industrie du galet. Alors ça me vient de ma famille. Mon père était ouvrier dans une usine de galets et les usines de galets ont fait, je dirais, pas mal de dégâts au sein de la population, beaucoup de maladies, beaucoup de silicose. Et je voulais aborder ce sujet-là. Et puis, je voulais aborder aussi le fait que un village dépend d'une économie qui est liée à une industrie aussi. Il y a aussi le tourisme, par exemple, sur Cailleux. Mais l'industrie du galet a aidé beaucoup de familles à vivre sur ce secteur-là. C'était vraiment le seul employeur de la région des Bas-Champs. Je parle de ça à une époque où les gens n'avaient pas de voiture et pour travailler, on travaillait au plus près. Donc, les seules usines qu'il y avait sur ce secteur-là, c'était les usines de galets. Je parle aussi des problèmes de digues, de montée des eaux, voilà. Mon sujet, c'est le galet sous toute sa forme. Le roman policier est un prétexte pour parler du Hâble d'Olt, de toute cette zone qui était... qui est victime, qui sera bientôt victime d'inondations, mais qui est victime de temps en temps d'inondations, qui est de cette digue de galets, de l'utilisation des galets.
Quel est votre roman préféré et pourquoi ?
Alors, j'en ai pas un, j'en ai beaucoup. J'en ai pas un. C'est difficile d'avoir un roman préféré. Alors, je vais vous parler, je dirais que Il y a trois romans auxquels je suis très attaché. C'est les trois premiers romans de Marcel Pagnol, Le château de ma mère, La gloire de mon père et Le temps des secrets, parce que c'est les trois premiers romans qui m'ont vraiment donné envie de lire. J'étais en sixième quand, avec un professeur, on a étudié le premier, qui était, je crois, le château de ma mère, et qui m'ont donné envie de lire les deux autres. Et à partir de là, j'ai découvert que j'aimais lire. À partir du CM2, jusqu'au CM2, je n'aimais pas lire. C'était difficile, c'était quelque chose qui était compliqué. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Et donc, ce sont les trois premiers livres qui m'ont fait rentrer dans la lecture. Et ensuite, je me suis intéressé un peu plus à Jules Verne, par exemple, pour passer ensuite, ado et adulte, excusez-moi, aux romans policiers qui m'ont accaparé. Et maintenant, je m'en libère un peu, je lis un peu d'autres sortes de romans. Alors, quand vous me demandez mon roman policier, je dirais beaucoup de polars. Je ne peux pas choisir, ça dépend du jour et du moment, ça dépend des auteurs qu'on lit. Mais j'en ai amené pas un polar, j'ai amené vraiment un livre que j'aime beaucoup, que j'offre beaucoup aux amis, qui s'appelle « Le jour avant le lendemain », qui a été écrit par un Danois et qui raconte une histoire qui se passe au Groenland et qui raconte comment la transmission d'une grand-mère à son petit-fils sur les gestes ancestraux de la culture groenlandaise chez un peuple qui est en train de disparaître et qui disparaîtra à la fin du roman. C'est un livre magnifique et qui est très court, très facile à lire et qui parle de choses profondément humaines.
Pouvez-vous nous lire un passage de votre livre ?
Et si je réponds non ? Alors, je vais vous lire le premier chapitre, mais alors, ça va être embêté par le micro. C'est bon, on peut reprendre ? Bon. Alors, premier chapitre, mercredi 18 décembre. Il s'était mis à courir par pur réflexe. C'était du moins l'hypothèse que ses années d'études lui auraient permis de formuler s'il avait eu le temps de se pencher scientifiquement sur cette situation. Quel stimulus vital avait mis ses jambes en mouvement ? L'instinct de survie n'était-il qu'un simple réflexe ? C'était bien trop tard pour essayer de se pencher sur ces deux questions qu'il n'était même plus en mesure de se poser, tout engagé dans son processus de fuite. Le cerveau n'avait rien eu à voir dans cette décision, un peu comme un canard décapité court pour échapper à la mort et s'écroule quand même après quelques foulées et 20 battements d'ailes. Dès le départ de sa course, il savait qu'il était déjà trop tard, que son sort était réglé. Mais, comme disait Pavlov, un réflexe, ça ne se commande pas. Il faut préciser aussi que deux décennies de négligence physique pesaient bien trop lourd dans cette fuite dérisoire pour la survie. Son régime tabac-bière-bière-tabac avait forcément créé des lacunes au niveau des capacités sportives, qui déjà n'étaient pas fameuses au départ. Il s'était donc élancé dans cet ultime triathlon, tout en sachant qu'il ne ferait pas plus de 10 mètres. Eh bien, il s'était trompé. En sport, comme dans bien d'autres domaines, il s'était toujours sous-estimé. 20 mètres et 50 centimètres, c'était la distance qu'il avait eu le temps de parcourir avant de s'écrouler, victime d'une rupture d'anévrisme ou d'une balle traversant sa boîte crânienne ou peut-être écrasé par une météorite venue du fin fond de la galaxie pour lui signifier qu'il avait atteint la ligne d'arrivée. Il ne le sut pas. Ce fut sa dernière course, son dernier chrono, 20 mètres en 15 secondes, pas même du 5 km à l'heure. Chrono minable, mais condition exécrable pour une épreuve d'une difficulté extrême quand on n'y est pas préparé et que d'ailleurs il n'avait jamais envisagé. 6 secondes pour amortir la chute et sortir de l'eau, avec dans un premier temps la poussée favorable d'une vague, suivie de quelques pas ralentis et chancelants à cause du ressac. 4 secondes de sprint relatif sur un sable plutôt mou, empêchant tout appui correct et par conséquent toute accélération. Et enfin, 5 secondes à mouliner péniblement dans les galets roulants pour tenter de remonter une digue qui fuyait sous ses pieds. Puis, extinction des lumières. Il n'avait rien vu venir, tout engagé qu'il était dans sa fuite éperdue. Il ne sut même pas de quoi il était mort, comment on l'avait tué. Au moment où il avait planté ses deux genoux dans les galets avant de s'y effondrer mollement, il n'était déjà plus de ce monde. Cela peut paraître ballot, mais au fond, puisqu'il fallait en arriver là, ce n'était pas plus mal. S'il avait pu, post-mortem, maintenant que le mal était fait, adresser un message à son ou à ses assassins, il les aurait sans doute félicités pour la qualité du boulot. Il n'avait rien senti. la mort avait été instantanée, comme si un interrupteur avait agi sur son existence. Vivant, mort. On ne peut pas plus simple. Beaucoup paieraient cher pour pouvoir envisager un tel départ, sans la peur, sans la maladie, et ces trois demoiselles d'honneur, l'espoir, la douleur et la résignation. Sans remords ni regrets, et sans avoir à se creuser le ciboulot pour sortir une dernière phrase mémorable, car les historiques sont réservés à une certaine élite. La belle mort, quoi. Il était mort comme ça, d'un coup, au plus près de cette baie qui était le centre de sa vie et où il rêvait de finir ses jours, mais pas tout de suite et surtout pas de cette manière.
Pouvons-nous vous suivre sur vos réseaux sociaux ?
Non, je suis un associable. J'ai pas de réseau social, j'ai pas de portable et c'est mon épouse qui prend mes coups de fil.
Question un petit peu privée. À notre âge, qu'est-ce qui était écrit sur votre bulletin ?
Bonne question. À votre âge, ça allait très très bien en mathématiques. Ça n'allait pas du tout en orthographe. J'étais ce qu'on appelle une quiche en orthographe. Et puis, c'est après que ça s'est amélioré. Quand j'ai eu le concours d'école normale et qu'on m'a dit que j'allais être enseignant, que j'allais devoir écrire sur un tableau, je me suis remis à travailler l'orthographe de manière à comprendre un peu mieux ce qui se passait. Pour tout dire, je devais être un petit peu dyslexique et ça handicapait pas mal mon orthographe. Autrement, j'étais un élève plutôt calme. On ne me faisait pas de remarques désagréables sur mon comportement. Et puis, j'adorais les maths surtout, beaucoup. Et c'est plus tard que j'ai compris que je préférais le français aux maths.
Quelle est votre chanson préférée pour notre prochaine pause musicale ?
Alors, des chansons préférées, ça dépend des moments. J'en ai des centaines. J'aime surtout beaucoup la chanson française. Georges Brassens, par exemple, est une de mes idoles. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Brassens. Maxime Le Forestier, Bernard Lavilliers. Non, ouais, tout ça, c'est un peu du passé. Alors, moi, j'ai choisi une chanson... parmi toutes les chansons que j'aime, j'ai choisi une chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelle « Né quelque part ». Alors, j'ai choisi « Né quelque part ». Alors, d'abord, j'ai choisi Maxime Le Forestier parce que Maxime Le Forestier, c'est un peu mon grand frère. Il a 10 ans de plus que moi et c'est lui qui, quand j'avais une quinzaine d'années, il en avait 25 ans et on ne voyait que lui seul avec sa guitare qui chantait. Il m'a donné vraiment envie de chanter, de jouer de la guitare. Je joue toujours de la guitare, mais moins bien que Maxime Le Forestier. Je chante moins bien que lui, mais j'ai toujours eu envie de chanter grâce ou à cause de Maxime Le Forestier. Et puis, il a disparu pendant un temps des radios et il est revenu avec un album qui s'appelait « Né quelque part » où il parle, et c'est un sujet qui est toujours d'actualité, du hasard du lieu où l'on est qui va conditionner votre vie. Nous, on est né là, notre vie risque d'être fortement conditionnée parce qu'on est né là. Si on était né ailleurs, on aurait une autre vie, on aurait peut-être une autre religion, on aurait peut-être une autre, vraiment une existence totalement différente. Et même si on va plus loin, puisque dans sa chanson, il dit « Est-ce que les hommes naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ?» On peut même se poser la question en France. Est-ce que si je suis né dans tel quartier en France ou dans tel autre quartier, j'aurai la même vie ? Et est-ce que de ce fait, est-ce qu'on est vraiment égaux ? Sachant même si c'est écrit dans la devise française « Liberté, égalité, fraternité », c'est quelque chose que l'on recherche, c'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose vers lequel il faut aller. Et son message de cette chanson, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait un jour aller vers l'égalité des hommes ?
Merci Monsieur Louvel d'avoir pris le temps de nous répondre. Et tout de suite sur Chaillou la radio, nous allons écouter votre morceau préféré, Maxime Le Forestier n'est quelque part.
Je vous remercie pour vos questions.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Y'a des oiseaux. basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Radio, je te radio qui donne la pêche.
En direct du Tréport de 10h à 16h.
107.5 FM, c'est là qu'on nous écoute.
Zonedonde.org, c'est là qu'on nous regarde.
Le lycée Le Hurlevent vous dit salut la radio.